RVA.
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 RVA est parti à la découverte des sous-sols de la ville de Clermont-Ferrand, sous le quartier historique. Il existe des centaines de caves de plusieurs niveaux et qui sont pour la plupart privées. L'association Les Amis des Caves du Vieux Clermont, qui agit pour sauvegarder ce patrimoine unique et parfois méconnu, nous ont accompagnés dans cette découverte. Dans l'imaginaire collectif, les souterrains d'une ville sont souvent des lieux remplis de mystères. Mais qu'en est-il réellement à Clermont-Ferrand ? Pour commencer, j'aimerais savoir combien de caves on peut recenser sous la butte de Clermont-Ferrand.
Au cadastre, sur notre terrain de jeu, il y a environ 1200 parcelles. Mais bien sûr, à l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui ont disparu, de différentes façons. Par la construction de parkings souterrains, par des comblements. Le chantier de l'Hôtel Dieu, par exemple, a fait disparaître des sous-sols. Mais un ensemble, ça peut être une seule cave, comme ça peut être 5, 6, 7 alvéoles.
Et finalement, à quoi elles ressemblent, ces caves ? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur les structures de ces caves ? Combien de niveaux elles ont également ?
Alors, on constate à peu près partout un premier niveau qui est un niveau maçonné, qui est le niveau où on trouve les vestiges archéologiques et l'histoire de la ville depuis 2000 ans. Ce niveau-là correspond à une voirie du 18e, 17e. Et les caves plus profondes, qui sont creusées dans le tuf, s'étagent sur quelques niveaux, pas autant qu'on se l'imagine. Elles sont assez erratiques, elles partent un peu dans tous les sens, à tel point que quelquefois, ceux qui ont creusé sont tombés chez le voisin.
Dans l'imaginaire collectif, les gens, finalement, ont tendance à penser que ces caves, les caves sont reliées entre elles dans les souterrains des villes. Est-ce que c'est vraiment le cas pour Clermont-Ferrand ?
Dans le passé, les gens qui sont descendus avec des petites lampes qui n'éclairaient pas jusqu'au bout et se sont imaginés que ça allait beaucoup plus loin que la réalité. Mais c'est vrai que l'imaginaire collectif, partout, il n'y a pas qu'à Clermont, partout, imagine toujours des moyens de communication extraordinaires. Il y a les sous-sols de l'Hôtel Dieu qui sont immenses, et qui peuvent faire penser à des voies de communication. Mais non, on n'a jamais trouvé le moindre vestige de voies de communication.
Mais finalement, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait quand même des projets pour relier ces caves entre elles.
Pendant la dernière guerre, il a fallu établir un plan de défense passive et que les caves profondes faisaient d'excellents refuges. Mais il fallait les faire communiquer entre elles parce que si la bombe tombait au-dessus de la cave où vous trouviez, il fallait pouvoir s'échapper par un autre immeuble. Donc il y a eu des plans avec des projets de percement, des projets de consolidation, des projets d'éclairage, des projets d'installation. Il y en a très peu qui ont été réalisés, très peu. Et de toute façon, les propriétaires, après la guerre, se sont dépêchés de reboucher.
Parce que finalement, on a tendance à comparer les souterrains des villes aux catacombes de Paris, qui sont des tunnels sur plusieurs kilomètres. Mais la structure à Clermont-Ferrand n'est clairement pas comparable.
Par rapport à la question que vous posiez là, sur la comparaison avec les catacombes, par exemple, on n'est pas du tout dans le même cas de figure, puisque à Paris, c'était d'immenses carrières souterraines. On extrayait la pierre pour construire par-dessus. Ce n'est pas le cas du tout à Clermont. Donc on n'est pas tout à fait dans la même typologie de sous-sol.
J'aimerais aussi qu'on revienne sur la roche volcanique, puisque ces caves en profondeur ont été creusées directement dans de la roche volcanique qui est relativement facile à creuser. C'est pour ça qu'on compare souvent les caves de Clermont à de véritables gruyères, c'est bien ça ?
Il est certain que ce tuf volcanique qui s'est mis en place il y a 156 000 ans environ s'est consolidé. Qu'il est relativement facile à creuser, surtout s'il est un peu humide, et qu'il est particulièrement stable par contre. Donc c'est vrai que ça aide à creuser en dessous. Moi, je voulais compléter pourquoi on creuse. Eh bien, on creuse aussi parce que la ville est enceinte d'un rempart, que la ville du 15e, c'est la même ville pratiquement au 17e. Donc il y a eu densification, les immeubles montent en hauteur, on a besoin de plus en plus de place et donc on creuse de plus en plus profond. Plus les immeubles montent en élévation dans la ville et plus on va creuser en sous-sol. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire un petit raccourci, c'est que plus c'est profond, plus c'est récent.
Et toutes ces caves, pour la plupart, ont servi pour affiner du fromage. On avait donc du Saint-Nectaire qui était affiné. Dans ces caves, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ?
La paille de seigle, qui est la trace des derniers affineurs de fromage, qui est affinée en cave dans la butte de Clermont. Mais ça s'est arrêté dans les années 70. D'abord, ça n'était pas commode. Vous avez bien vu les escaliers. Certains mettaient des monts de charge. Bon, mais les normes sanitaires leur ont imposé de trouver d'autres solutions que les caves de Clermont.
Autre activité économique importante hein, en Auvergne au XVIIIe siècle, c'est l'activité viticole. Les caves ont aussi servi pour conserver le vin, un moment important dans l'histoire auvergnate.
C'est certainement l'emploi le plus important des caves de Clermont. L'Auvergne et particulièrement les coteaux de l'Allier, de la Limagne, ont produit du vin depuis l'arrivée des Romains, en gros. Du vin en très grande quantité, du vin qui était renommé à une époque. Et il fallait stocker avant d'expédier tout ça à Paris. Mais le vin, ça a été une grande, grande, grande affaire dans la région et en particulier à Clermont.
Et finalement, pour revenir sur l'association Acavic, les amis des caves du Vieux Clermont, est-ce que vous pourriez nous rappeler tout simplement votre rôle et surtout les objectifs de votre association?
Alors, notre association a plusieurs objectifs, mais c'est d'abord un travail un peu scientifique, d'inventaire, de cartographie, de dessin, au niveau de l'archéologie, de l'architecture, des traditions,
de
l'économie, de la biologie même, voilà, oui. Notre objectif, c'est de montrer aux propriétaires privés et aux collectivités l'intérêt de garder des sous-sols sains. Donc voilà, même si on en a moins d'utilisation, encore qu'on y trouve maintenant des salles de restaurant, qu'on y trouve des salles d'exposition, qu'on a quand même d'autres activités en sous-sol. Mais ce qui est important, c'est de les garder saines, donc de les garder aérées, ventilées. Sinon, on risque de mettre en péril l'immeuble qui est au-dessus ou la voirie qui est contiguë.
Autre point qu'il faut aussi notifier au niveau des caves, c'est que pendant plusieurs années, elles ont été, entre guillemets, un peu maltraitées, ces caves, avec de nombreux déchets qui restaient dans les sous-sols.
Longtemps, les soupiraux ont été béants. Et tout ce qui était indésirable sur la voie publique passait par les soupiraux et atterrissait dans les caves. Donc on trouvait les vestiges de vol, on trouvait des seringues, on trouvait des quantités de choses de ce genre. Mais les caves aussi, après l'abandon par les fromagers, ont servi de dépotoir aux habitants des maisons. Donc quand il y avait des travaux dans un appartement, les gravats atterrissaient dans la cave profonde. Donc parfois c'est acrobatique pour atteindre les caves profondes. Donc oui, les caves ont été maltraitées depuis l'abandon par les fromagers. Les sous-sols de Clermont ont été maltraités et c'est une des raisons d'être de l'association.
Et pour clôturer cette interview, je vous laisse bien sûr le mot de la fin si vous avez quelque chose en particulier à ajouter.
On peut lancer un appel aux habitants parce que nous dépendons entièrement de la bonne volonté des propriétaires qui acceptent de laisser les adhérents de la CAVIC pénétrer dans leur sous-sol. On a bien compris que beaucoup de gens n'ont pas envie qu'on aille dans leur sous-sol. D'abord, ils sont gênés parce que ce n'est pas rangé, parce que ce n'est pas propre. Mais nous, on s'en fiche complètement. Pour l'instant, nous avons visité, cartographié, photographié peut-être 250 ou 300 caves. Vous voyez qu'on est loin du compte. Donc, les habitants de la vieille ville qui accepteraient de nous recevoir, eh bien, ils nous trouveront sur le site de l'association. Ils peuvent nous contacter. On est capable de faire des expertises s'ils ont des problèmes d'humidité, des problèmes de structure. Et ils ne le regretteront pas. En général, les propriétaires sont très heureux de nous. Après notre visite, ils sont très heureux.
Et puis, moi, je rajouterais juste un petit mot, donc peut-être plus politique, on va dire. C'est que culture et patrimoine sont des choses indissociables et que, au moment où Clermont postule à une candidature européenne capitale de la culture, je trouve que c'est bien de penser bien sûr aux activités, aux manifestations culturelles, mais également au riche patrimoine de la ville, dont les sous-sols.